Voilà, Nicole.
Alors, ma thèse, en fait, elle s'intitule « Rapport à l'école et perception de la réussite des collégiens d'Apatou en Guyane ». Et déjà, merci de l'intérêt que vous portez à ce sujet. Et moi, cet intérêt, il est venu par rapport à, au fait que je suis guyanaise, que je vis en Guyane. J'ai eu l'occasion d'aller sur ces sites dits isolés selon le découpage administratif et académique. Et il y a des questions qui revenaient souvent sur le rôle de l'école, les populations bushinengues, leur insertion, leur intégration, l'assimilation, et puis l'échec scolaire dont on faisait beaucoup écho. Donc, dans un premier temps, j'ai pu aussi rencontrer un certain nombre d'enseignants qui étaient envoyés, qui étaient sur ces sites. Alors, soit par désir d'aller sur ces sites isolés, ou soit ils étaient envoyés sous l'effet des nominations. Et quand ils arrivaient, ils étaient quand même assez dépaysés par rapport à l'environnement géographique et culturel. Donc, je vous ferai une présentation en quatre temps. Déjà, exposer la problématique, les objectifs de la recherche, la méthodologie d'enquête et puis les résultats. Donc, quand on s'intéresse un peu aux recherches qui sont menées en Guyane, sur l'école notamment, elles mettent surtout en avant l'inadaptation du système scolaire au regard de la situation géographique, sociolinguistique du territoire. Alors, la Guyane, c'est une société en pleine mutation. C'est une société avec une démographie galopante depuis quelques années, avec des apports de populations venant à la fois de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, du monde. Aujourd'hui, la Guyane, c'est le monde en version réduite. Donc, le cadre général se situe en Guyane, qui est sur le continent sud-américain, spécifiquement à Apatou, qui est une commune qui partage sa frontière avec le Suriname, qui est l'ancienne colonie hollandaise. Et à l'époque de la colonisation, à partir de la moitié du XVIIe siècle, il y a eu différentes formes de marronnage qui donneront naissance à six groupes. Voilà, celle d'après. Donc quatre vont s'installer sur les rives françaises.
Attends, j'ai un problème. Ouais.
Et en fait, ces groupes portent le nom de Bushinengue, qui veulent dire homme des bois. Donc avant les années 70, ces populations étaient considérées comme indigènes, tribales, selon les terminologies de l'époque, et étaient écartées du système politique, économique, social et éducatif. Et elles étaient essentiellement régies par des règles coutumières, avec un grand man, un capitaine, qui gérait les conflits et puis qui gérait la vie des populations. Donc dans les six groupes, il y a les Saramaka, les Duka, les Mataoué, les Quinti, les Paramaka et les Boni. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les Boni et les Duka qui se sont installés sur les rives françaises. Il y a une convention avec une convention franco-hollandaise et qui ont accepté que ces populations-là vivent sur les rives, mais sans, parce qu'avant 70, la Guyane était coupée en deux. Il y a eu le territoire de l'Inini et puis les bandes du littoral. Le territoire de l'Inini était géré par un gouverneur, mais ces populations qui faisaient partie du territoire de l'Inini, elles étaient vraiment autonomes. C'était vraiment les règles coutumières qui s'en occupaient. C'est à partir de 70 qu'elles rentrent dans le système français, qu'il y a tout un travail qui est fait pour qu'elles deviennent françaises et qu'elles accèdent à l'école, qu'elles accèdent aux soins, qu'elles accèdent au système administratif français. Donc, à partir de 70, changement administratif et statuaire dans un contexte de revendication aussi identitaire et culturelle, d'installation de dispositifs d'intervenants en langue maternelle, et se pose cette question de ces populations qui arrivent dans le système scolaire, qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il de leur scolarisation. Donc par rapport à Apatou, les questions par rapport à la commune d'Apatou, les différentes questions que je me posais, c'était comment ces jeunes bushinengues habitant Apatou appréhendent le système scolaire, Que signifie aller à l'école, y travailler, apprendre les savoirs proposés? Comment vivent-ils leur scolarité? Quelles sont leurs ambitions, leurs projets? Quel regard portent-ils sur l'école et sur leur commune? Donc les objectifs étaient de comprendre comment les collégiens, à travers leur rapport à l'école, se construisent, se projettent, cultivent la réussite dans l'espace scolaire. C'était aussi de saisir les spécificités d'une société donnée à un moment donné de son histoire, d'approcher et de rendre transparente la complexité de l'histoire et de l'expérience scolaire de collégiens sur un site rural. Donc il faut savoir aussi que la jeunesse résidant dans un tel contexte est très peu étudiée par les sciences sociales et de l'éducation. Et c'était quelque part apporter une contribution sur les connaissances d'un système éducatif et d'une partie de la jeunesse en Guyane. Donc le parti pris, c'était de traiter les questions de la réussite à travers le rapport à l'école, c'est par rapport à ses missions, la façon dont le sujet apprend, comprend, se construit dans le système scolaire, en se basant sur le travail fait par l'équipe ESCOL, donc le rapport, sur le cadre théorique du rapport à l'école, donc qui concerne le rapport aux autres, aux élèves, aux professeurs, le rapport aux différentes situations qui peuvent exister au sein de l'établissement, mais aussi en tant que l'école, en tant qu'institution. C'était aussi s'intéresser à la notion d'utilité et à la valeur qui est accordée à l'école, qui se lit comme un processus complexe qui interroge l'ensemble des représentations, les valeurs, les attitudes des élèves vis-à-vis des savoirs, de l'apprentissage, de l'école, des activités scolaires, des enseignants et de soi-même en tant qu'élève. Donc il se caractérise par la singularité de l'histoire scolaire de l'élève, la façon dont il se façonne et la façon dont ensuite il s'intègre dans la société. Donc la démarche que j'ai choisie était inductive et ethno-sociologique. Donc au lieu d'arriver sur le terrain avec des connaissances, c'était d'abord aller sur le terrain sans savoir grand-chose. C'est d'abord s'imprégner du terrain, c'est par rapport à sa sensibilité, ouvrir ses oreilles, aller voir ce que les gens peuvent raconter. Et pas de vérifier absolument des hypothèses proposées a priori. Mais c'est surtout comprendre comment ça marche.
À cet égard, je dois dire que c'est vraiment l'équipe de Nanterre qui utilise la théorie ancrée. Oui. C'est-à-dire la théorie qui se revisite au fur et à mesure des acquis du terrain.
Exactement.
Donc c'est une posture très très spécifique à Nanterre.
Oui. Donc le recueil des données aussi s'est organisé par une démarche mixte. C'est la combinaison de trois outils d'analyse, questionnaire, observation de terrain et puis entretien semi-directif. Donc le questionnaire a été passé auprès de l'intégralité du collège. Il n'y a pas eu de... C'était vraiment interroger l'ensemble des élèves présents. C'est un collège de 579 élèves. Et j'ai récolté 451 questionnaires. Donc il y avait différents items qui leur étaient proposés. Donc le rapport des collégiens, le rapport que les collégiens entretiennent avec l'école à travers la perception de la réussite, leurs ambitions et projets d'avenir, et puis leur ancrage aussi dans la commune. Les missions, et puis bien sûr les missions de l'école. Donc les observations que j'ai menées, elles se faisaient devant et dans l'établissement, devant et dans les salles de classe, à la permanence, au CDI, à l'infirmerie aussi, et puis sur le préau. Les entretiens ont été menés auprès de 30 élèves. C'est des entretiens du type semi-directif, auprès de 15 filles et 15 garçons, des classes de 6e à la 3e, puisque selon l'âge, l'expérience peut différer. Pour les uns, elle est récente, et pour les autres, ils s'apprêtaient à quitter l'établissement. Donc sur l'analyse des résultats, donc je vais vous parler de quatre parties. Sur l'ancrage culturel des élèves, l'appropriation des missions de l'école, leur perception de la réussite et puis les profils que j'ai pu décliner par rapport aux entretiens et puis aux réponses des questionnaires. Donc sur l'ancrage culturel, alors ces élèves bouchéninguais sur lesquels, alors faut savoir qu'il y a beaucoup de représentations autour du groupe bouchéninguais, des représentations beaucoup négatives d'ailleurs, sur des populations qui ne s'intègrent pas, des grossesses précoces, des personnes qui restent entre elles, et échecs scolaires massifs. Donc sur l'ancrage culturel, ce qu'il ressort de ce travail, c'est que la majorité des collégiens, en fait, ils manifestent des signes d'ouverture sur une société mondialisée. Donc ça se caractérise par leur façon de s'habiller, leur façon de les différents accessoires qu'ils portent, aussi leur façon de parler. Et puis leurs modèles correspondent beaucoup à ces vedettes hein, artistiques, soit sportives, soit musicales, du monde occidental et caraïbéen. Pour l'anecdote, les surveillants, ils ont sur la mode du sag, vous savez ce que c'est, les élèves qui portent le pantalon, voilà. Donc les surveillants, alors c'est aussi une mode qui est rentrée, alors c'est un site isolé, hein, alors je vous ai pas expliqué que c'est un site au départ, il était accessible uniquement par voie fluviale, donc de la commune de Saint-Laurent qui est à 350 km de la capitale, il fallait arriver à Saint-Laurent et de Saint-Laurent il fallait prendre une pirogue pour y aller. Depuis 2008 il y a la route, toujours de Saint-Laurent, qui soit pour compter à peu près une heure de trajet. Donc c'est quand même resté un site assez isolé. Mais c'est un site qui est frontière avec le Suriname. Et sur cette ouverture, l'ouverture se fait plutôt via le Suriname. Donc ces élèves qui portent cette mode, la mode du sac par exemple, et les surveillants, tous les matins, ils ont le travail de leur dire de remonter le pantalon parce qu'on n'arrive pas à l'école. Et quand on interroge par exemple les élèves sur la définition ou sur ce qu'ils pensent, ils ont une explication qu'on trouve sur les réseaux sociaux, ils ont une explication que tous les jeunes, qu'ils expliquent en fait. Donc sur la représentation de populations très fermées sur elles-mêmes, qui ne s'ouvrent pas, quand on est sur le site, on se rend compte qu'il y a... Il y a plutôt cette ouverture sur le monde et ce désir aussi de sortir d'Apatou.
Est-ce qu'ils font des graphes sur les murs ?
Oui, alors à l'entrée du collège, il y a ce graphique sur le respect, je vais en parler tout à l'heure, en français et en bushi tango, sur le respect qui est une valeur qu'on va retrouver tout à l'heure, mais qui est beaucoup utilisée. Parce que c'est des populations qui ont vraiment l'impression qu'ils ne sont pas respectées et qu'elles devraient être respectées et qui ressentent, c'est quelque chose qu'ils ressentent et qui est beaucoup utilisé. Et à l'entrée de l'école, ce n'est pas innocent d'avoir mis vraiment ce graphique autour du respect. À la fois, c'est visible, mais c'est aussi quelque chose qui leur tient à cœur comme valeur. En termes de représentation, ils indiquent que c'est le maire qui représente l'autorité la plus importante pour eux. Alors c'est des populations qui sont gérées par un grand man qui représente l'autorité spirituelle et la sagesse. Ensuite un capitaine. Et on voit que le capitaine, il arrive en troisième position et en deuxième position, ça a été l'item « ne sait pas ». Donc on assiste au fur et à mesure à une mise à l'écart en douceur des chefs coutumiers qui quand même à un moment donné étaient les décisionnaires du groupe. Alors ces élèves répondent aussi qu'ils ont une connaissance assez partielle de leur culture, de l'histoire des Bushinengués. Faut savoir que cette histoire est peu enseignée à l'école, peu de manuels existent sur cette question. Il y a un historien qui s'appelle Jean Moumou qui a fait un excellent travail sur les communautés Bushinengués, qui d'ailleurs est aussi issu de la communauté Bushinengué et qui enseigne aujourd'hui à l'université en Martinique, si mes souvenirs sont bons. L'histoire reste transmise essentiellement par voie orale. Par contre, ces jeunes nous disent qu'ils ont identifié les personnes ou les lieux ressources pour obtenir des informations sur leur histoire. Donc sur l'appropriation des missions de l'école, ils adoptaient une position positive envers l'institution scolaire. Sur 21 items, ils ont identifié 13 objectifs qui leur paraissent essentiels à apprendre à l'école. Et par leur choix, ils ont classé les missions les plus importantes, à savoir la socialisation, l'instruction, l'éducation, puis la formation. Donc dans la socialisation, ce qu'ils ont défini, c'était découvrir et s'intéresser à différentes matières. Donc ils évoquent volontiers l'appréciation de différentes disciplines, le sport, la musique, les arts plastiques, les langues vivantes. Alors les autres matières, d'autres matières sont citées, telles que la technologie, l'histoire-géographie, l'anglais et l'SVT, mais elles sont jugées plutôt ennuyeuses, peu attrayantes et parfois trop difficiles. Donc ce qui leur paraissait aussi important, c'était obéir aux règles de l'école et de la société. C'était aussi respecter les plus âgés, hommes et femmes, et être appliqués et studieux. Alors le respect est aussi évoqué comme étant une valeur importante, surtout auprès des personnes âgées. Elles estiment que c'est un... Alors ça rejoint aussi une croyance culturelle qui est très forte, autour de laquelle manquer du respect à une personne âgée, c'est s'attirer de la malédiction, c'est avoir une mauvaise éducation. Et du coup, cette valeur de respect, elle va fédérer les membres du groupe autour de valeurs de hiérarchie et des différents rôles sociaux. Pour les personnes âgées, elles ont aussi, c'est aussi de la sagesse, aussi des personnes qui ont l'éducation, etc. Sur l'item instruction, ce qu'ils ont mis en avant, c'était s'exprimer facilement à l'oral et à l'écrit, lire, écrire et compter, et puis développer son imagination. Donc les matières citées comme les plus importantes restent le français et les mathématiques. Elles sont aussi citées pour des raisons pratiques. Ces élèves sont régulièrement, dans leur quotidien, il y a tout l'aspect administratif qui est très, très pesant, très prégnant. Et ils l'expriment quand ils disent qu'ils doivent remplir les documents, ils doivent s'exprimer dans les services publics, ils doivent, alors préfecture, hôpitaux, sécurité sociale, etc. Et puis, savoir compter, c'était utile pour les courses. Et puis, ce sont aussi des matières essentielles lors du passage du DNB. Sur l'item éducation, alors l'item respecter et respecter les autres arrive en premier. Avoir de la dignité et le sens de l'honneur, et puis développer le sens moral. Donc, le respect est à nouveau souligné. Il s'agit du respect de soi au respect, et le respect qui est dirigé vers les autres. Alors, il exprime une demande qui se lit sur les murs au sein de l'établissement, ce dont je parlais tout à l'heure, suite à une opération mixte A. Donc, ces jeunes aujourd'hui qui ont grandi dans un contexte qui prône beaucoup la liberté, l'égalité, les droits de l'enfant, les droits de l'homme, aujourd'hui, ils veulent s'en prévaloir et ils les revendiquent plus que leurs aînés. Et ils revendiquent aussi un traitement égalitaire en termes de place, de statut, de rôle, de légitimité à l'école et ailleurs. Sur l'item formation, ce qui leur paraissait important, c'était pouvoir faire des choix, pas des choses qu'on leur imposait. Intégrer des valeurs communes à tous, apprendre la culture et l'histoire de son pays. Donc le collège, du coup, c'est un lieu où ils sont amenés à faire des choix à la fin du cycle. Et ils aimeraient que ces choix, justement, viennent d'eux et pas que des enseignants. Ils aimeraient aussi être invités à réfléchir à ces choix le plus tôt possible. Et puis, et aussi faire des choix par rapport à la langue vivante d'eux. Parce que, en l'occurrence, ils n'avaient pas le choix de langue vivante d'eux. Alors sur la perception de la réussite, les collégiens se placent dans une logique de la réussite qui pour eux est un gage de, est une garantie d'avenir pour permettre d'avoir un accès à l'emploi et à un bon salaire. L'emploi occupe une place importante. Et quand on leur demande à quoi correspond la réussite pour eux, le premier élément qui ressort, c'est l'emploi. Ensuite, fonder une famille et avoir un logement. Alors l'école est clairement identifiée pour aider à préparer l'avenir et plus tard obtenir un emploi. Leur ambition passe par la volonté de poursuivre des études ou s'exprimer directement sur un métier. Alors il existe cependant une nuance entre les réponses des garçons et des filles, parce que pour les garçons, il apparaissait que fonder une famille était beaucoup plus était très important et ça rentre en fait dans les codes. Dans la préoccupation du rôle masculin où avoir des enfants, c'est aussi une manière de montrer qu'on a réussi et qu'on est important. Donc, dans la perception de la réussite viennent aussi se greffer un certain nombre de croyances magico-religieuses et la chance, la question de la chance. Et de ces croyances magico-religieuses, elles peuvent freiner la réussite par peur de s'attirer la jalousie, par peur aussi de la colère des divinités. Alors, c'est un sujet qui reste tabou, qui est peu explicité, mais quand les enfants, quand les collégiens en ont parlé, ils exprimaient aussi une appréhension à réussir parce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient vraiment s'attirer la malédiction des esprits, des obias. Et puis peur aussi que les autres les jalousent, du coup leur envoient le mauvais sort. Alors, différents profils, face à la réussite, différents profils ont été, trois profils ont émergé. Donc, des élèves déterminés qui ont une idée très précise et très tôt de ce qu'ils veulent faire. Donc, ils l'expriment par rapport à un métier ou par rapport à des études à poursuivre. Donc, les informations qu'ils donnent montrent qu'ils se sont renseignés. Dans leur dénonciation de ce qui est important aussi pour eux, c'était le salaire, la reconnaissance ou le prestige social de certaines professions, telles que médecin, pour eux médecin, avocat. La reconnaissance avec les métiers souvent qu'ils exprimaient, c'était soit sportif international, chanteur ou scientifique. Des activités par rapport à des formations soit longues ou soit courtes. Ces élèves aussi sont prêts à partir sur le littoral, voire à quitter le département pour suivre leurs études. Et puis dans cette catégorie d'élèves très déterminés, on trouve ceux qui veulent faire du business. Alors ils en parlent comme ça, hein. Ils veulent faire du business, ils veulent avoir des activités qui rapportent. Et là, ils misent beaucoup sur leur chance, leur talent, leur savoir-être, avec une notion de débrouillardise qui était beaucoup évoquée, de savoir parler, savoir se lancer, ne pas avoir peur, oser. Il y a la deuxième catégorie d'élèves qui sont plutôt les frileux. Alors ces élèves, ils sont plutôt prudents, ils ont beaucoup de méfiance à quitter le cocon familial. Alors il y a quand même des antécédents avec des expériences ratées, des élèves qui sont revenus désabusés, sans diplôme, qui ont connu un certain nombre d'ennuis judiciaires. Pour les filles, ça a plutôt été les grossesses ou les histoires d'amour ratées. À cela aussi s'ajoute le risque, si on part, on risque de s'ajouter la jalousie des autres. Donc, de peur de convoquer l'invisible, les esprits, les obias, il y a cette peur de partir, donc on va rester, ou on n'ira pas très loin. Donc, à Saint-Laurent, qui est à 70 km, on n'ira pas très loin. Et puis, une autre catégorie d'élèves, la troisième, les indéterminés. Alors eux, ils n'ont pas de choix, ils sont un peu perdus dans la nébuleuse des études, des filières. Ils ont plein d'idées, mais ils ne savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas non plus définir des priorités. Donc il y a des journées qui sont organisées dans les collèges. Et ces élèves, ils évoquent le fait qu'ils ont plein d'idées, ils ont assisté effectivement à ces journées de présentation, il y a plein de choses qui leur plaisent. Ils aiment bien certains métiers, ils ont beaucoup évoqué policiers, pompiers, journalistes aussi, ça leur plaît, mais ils ne savent pas trop. Et puis, dans cette catégorie, on retrouve aussi une minorité de jeunes qui n'a aucune idée, leur avenir les laisse perplexes, sans voix, alors voix avec le X et la voix aussi avec le E hein, à la fin. Ils ne savent pas trop quoi faire, ils réfléchissent, mais ils sont vraiment rien ne ressort de leur réflexion. Donc, en conclusion, la scolarité des élèves de l'Ouest par voie de conséquence des Bushinengués fait l'objet plutôt de représentations d'une logique causaliste où on tente de véhiculer plutôt une conception déterministe de l'histoire, de leur histoire, et considérer que le système agit que de manière unidirectionnelle sur leur destin. C'est plutôt l'opposé des fondements de notre recherche. Notre objectif était de saisir le sens de leur expérience scolaire, d'analyser leur situation dans sa complexité, à partir de leur interprétation. Le but n'était pas d'infirmer des hypothèses ou d'invalider des recherches, mais de rappeler que la dynamique sociale est une réalité évolutive, complexe et multiforme. Alors, les collégiens sont ancrés dans leur environnement, ils se positionnent aussi dans le monde occidental. Leurs intérêts, leurs préoccupations sont sans équivoque sur ce sujet. L'école est un moyen qu'ils ont identifié pour espérer avoir une place dans la société. Dans notre recherche, il apparaît que l'image du Bushinengue isolé, replié sur lui-même et fermé au reste du monde ne correspond pas à la réalité. Voilà. Donc les résultats de cette recherche ont permis d'attirer l'attention sur les liens qui existent entre l'école, la perception de soi. Dans cette perspective, il importe de sensibiliser les élèves sur le rôle actif dans leur apprentissage, les exigences d'appropriation des savoirs et leur mobilisation à l'école. Elle met aussi en exergue les grands défis du système éducatif et fournit une lecture en positif du parcours du sujet apprenant pris dans l'obligation d'apprendre. De plus, l'école permet de renouer les relations entre le littoral et l'intérieur et devient un enjeu de cohésion sociale dans une société en pleine construction. Dans cette école, les collégiens ont développé une attitude réceptive et un lien de confiance envers l'école. Le rapport à l'école se conjugue dans une projection à travers un positionnement professionnel, un métier et social, famille, logement. Donc en termes de pistes de recherche, il sera intéressant d'appréhender le rapport à l'école sur d'autres sites, son évolution dans la poursuite d'études, qui se déroulera à l'extérieur de la commune d'origine. Donc voilà. Je vous remercie de votre attention, si vous avez des questions.